Votre matinale info, Europe Matin Weekend, Julien Peers.
8h17, l'interview politique avec ce matin, ce coup de tonnerre judiciaire. La Cour de justice de la République a donc mis en examen hier Éric Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt. Situation inédite sous la Ve République, un ministre de la justice en exercice mis en examen, c'est tout simplement du jamais vu. Bonjour Jean-Jacques Urvoas.
Bonjour monsieur.
Ancien garde des Sceaux de 2016 à 2017 sous la présidence donc de François Hollande. Merci d'être en direct avec nous. Première question, Éric Dupond-Moretti doit-il démissionner ?
Rien ne l'y oblige. Et qu'il n'en ait pas l'intention, ça peut se comprendre. Mettez-vous à sa place. La mise en examen, c'est pas une reconnaissance de culpabilité. Il n'est même pas sûr qu'il y ait un procès. Le juge, enfin la commission de l'instruction, après analyse, peut parfaitement conclure à un non-lieu. C'est pas qu'une hypothèse. Éric Woerth, ministre, avait été suspecté de prise illégale d'intérêt, de la même manière qu'Éric Dupond-Moretti, sur une histoire d'hippodrome. Et au bout de quelques mois d'analyse, le juge avait conclu à un non-lieu. Donc la mise en examen fait de celui qui est concerné néanmoins un innocent. Donc sur le plan judiciaire, il n'y a aucune question.
Donc l'ex-garde des Sceaux que vous êtes conseille à l'actuel Éric Dupond-Moretti de rester en place, de rester à la chancellerie ?
Je ne dis pas ça parce que c'était justement le deuxième aspect, c'est que pratiquement son maintien au gouvernement et le met dans une situation délicate. Parce que si vous regardez son agenda de la rentrée, en septembre, il est devant le Sénat pour défendre un projet de loi qui s'intitule « Sur la confiance dans l'institution judiciaire ». Et dans ce texte, on parle de quoi ? On parle du secret de l'avocat.
Elle est pour le moins ébranlée, cette confiance.
C'est ce que je voulais vous dire. Puis quand il aura fini de ce dossier-là, qu'est-ce qu'il a derrière lui ? Eh bien, il a un autre texte, qui est le projet de loi sur l'irresponsabilité pénale qui avait été nécessité après la décision sur le meurtre de Sarah Halimi, qui n'est pas un dossier facile. Le gouvernement n'a d'ailleurs pas encore dit ce qu'il mettait dans ce texte. Et qui, comme si cela ne suffisait pas, il y a en plus les états généraux de la justice que le président de la République a annoncé pour l'automne. Est-ce que l'on imagine le ministre dans cette situation très inconfortable? Il va avoir comme interlocuteur le procureur général de la Cour de cassation, celui-là même qui l'accuse devant la Cour de justice de la République. Donc je ne sais pas si le ministre saura faire la distinction entre le justiciable qu'il est et qui va se battre naturellement pour démontrer qu'il est innocent dans ce que la Cour de justice de la République lui reproche, et le ministre qu'il continue à vouloir être, qui lui doit parler au nom de l'intérêt général. Donc je dirais que ça... Sa position est évidemment inconfortable et je pense que son avenir est incertain.
Donc c'est une situation, on le comprend bien politiquement, quasiment intenable, on va dire. Est-ce que vous diriez que le coup politique tenté il y a un an par Emmanuel Macron avec la nomination d'Éric Dupond-Moretti est en train de se retourner contre le président ?
Il me semble que le président de la République voulait faire d'Éric Dupond-Moretti un atout pour une campagne électorale. Je pense que cet atout est aujourd'hui plus faible qu'il ne l'était il y a un an. D'ailleurs, les résultats des élections régionales l'ont montré. Est-ce qu'Éric Dupond-Moretti devient un boulet pour Emmanuel Macron ? Je veux dire, c'est les semaines prochaines qui vont nous le dire.
Alors, il se murmure qu'Éric Dupond-Moretti pourrait prochainement quitter la chancellerie et, d'après nos informations, se voir confier un autre portefeuille au sein du gouvernement. Mais s'il venait tout de même à rester ministre de la Justice, il deviendrait en quelque sorte un garde des Sceaux fantôme ?
Il devient un garde des Sceaux dont la parole est affaiblie. Et donc, quand on est ministre de la Justice, c'est une situation qui est compliquée parce que vous êtes à la confluence du droit et de la politique. Vous êtes dans une espèce d'intersection entre le judiciaire, le législatif, l'exécutif, donc c'est pas facile. Et pour exercer cette responsabilité-là, c'est-à-dire être devant le Parlement pour parler au nom de l'institution, être devant les magistrats pour expliquer la politique du gouvernement, ça demande une liberté de ton. Moi, ma difficulté à vous répondre, c'est que Éric Dupond-Moretti, il a un combat personnel maintenant à mener. C'est celui de son innocence. Et donc je crois que ça va entraver sa facilité d'expression sur le débat public.
Jean-Jacques Urvoas, sans entrer dans le fond de cette affaire, est-ce que vous diriez qu'on est en train d'assister à un règlement de compte ? Est-ce que des magistrats instrumentalisent la justice pour se débarrasser d'un ministre qu'ils exècrent ?
C'est difficile de vous dire ça de manière assez claire, parce que pour le dire, il faudrait avoir accès au dossier, qui évidemment n'est pas connu, même si on peut toujours regretter qu'il y ait des informations qui soient diffusées dans la presse. On ne sait jamais qui en est à l'origine, mais on sait qui en est la victime, et celui qui en est la victime, c'est la justice. Bon, moi, ce que je crois sincèrement, c'est que d'abord, petit un, la justice, elle est indépendante. D'une certaine façon, d'ailleurs, la perquisition du bureau du garde des Sceaux montre que la justice est indépendante. Est-ce que vous imaginez le premier garde des Sceaux de la Ve République, c'était Michel Debré, est-ce que vous imaginez en juillet 58 une perquisition place Vendôme. C'est impossible à concevoir. À l'époque, la justice était en bride courte, tenue par le pouvoir politique. Donc nous avons une justice qui est aujourd'hui indépendante, personne ne peut le contester. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'elle soit aussi impartiale. Et c'est d'ailleurs ce qui, pour la Cour européenne des droits de l'homme, fait la marque de la justice. C'est l'absence de préjugés de la part du juge. Et donc c'est une exigence déontologique. Et c'est vrai que si on regarde simplement les faits, puisqu'on ne peut pas connaître le contenu du dossier, quand le procureur Molins, qui est procureur général de la Cour de cassation, signe le 29 septembre 2020 une tribune, il a le droit,
dans le monde,
dans lequel il dit, oui, dans lequel il dit expressis verbis, comme disent les latinistes, c'est-à-dire de manière claire, le garde des Sceaux est en conflit d'intérêts. C'est une position politique que défend le procureur général de la Cour de cassation, et encore une fois, personne ne le conteste. Là où c'est plus discutable, c'est que c'est le même procureur qui est aussi l'autorité de poursuite devant la Cour de justice de la République, qui demande à la commission d'instruction de la Cour de justice d'enquêter sur le garde des Sceaux. Donc ça, effectivement, ça peut poser
donc,
des questions.
On donc il y a un conflit d'intérêt. Si conflit d'intérêt il y a, il pourrait être à tous les étages. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Bah, en tout cas, il me semble que certains magistrats peuvent confondre les intérêts de la justice avec les intérêts de leur propre profession.
Est-ce qu'on donne
parfois l'assentiment d'un règlement de compte.
Est-ce qu'on est entré dans la République des juges? Est-ce que certains de ces hauts magistrats que vous avez côtoyés longuement sont dans une forme de toute puissance?
Non, je ne dirais pas ça du tout. D'abord parce qu'il ne faut pas caricaturer une profession qui a 9000 magistrats. Moi, tous les magistrats que j'ai rencontrés sont... c'est pas une profession que vous faites par hasard, c'est une profession de vocation. Il y a un intérêt à servir. Moi, je suis aujourd'hui enseignant en droit à l'université. Je vois mes étudiants, ceux qui ont l'intention d'être magistrats, c'est servir, c'est le service public. C'est-à-dire que ce sont vraiment des individus qui ont envie d'être utiles à la collectivité. Ensuite, après, c'est une profession qui, comme toutes les professions, a envie de plus de pouvoir. Et sans doute vivent-ils mal le fait que depuis 1958, dans la Constitution, on les baptise autorité judiciaire et pas pouvoir judiciaire. Et donc, du coup, ils ont sans doute envie de cette reconnaissance, qui d'ailleurs, pour moi, n'est pas une difficulté. C'est un débat artificiel. Ça, j'ai entendu le président de la République dire « je veux que la justice reste une autorité et pas qu'elle ne devienne pas un pouvoir ». Mais dans les faits, la justice est un pouvoir, mais c'est pas Macron, ni moi, ni vous qui le décidons, ce sont les Français.
Jean-Jacques Urvoas, dernière question, vous avez...
Non, j'allais vous dire que les Français demandent aux juges tous les jours d'intervenir. Ils ne cessent de faire appel aux juges, c'est donc bien qu'ils lui reconnaissent un pouvoir. Sinon, ils ne demanderaient pas d'intervenir comme régulateur de tous les conflits que nous connaissons dans la vie quotidienne.
Jean-Jacques Urvoas, vous avez vous-même été mis en examen par la Cour de justice de la République. Vous avez d'ailleurs été condamné à un mois de prison avec sursis pour violation du secret professionnel. Est-ce qu'on peut se relever politiquement après ça?
Non. Non. Non, je crois que c'est une condamnation qui fait que vous devez faire autre chose. Et en l'occurrence, moi, je suis revenu à mon premier et seul métier, qui est celui d'enseignant en droit.
Merci beaucoup, Jean-Jacques Urvoas, d'avoir été en ligne avec nous ce matin, d'avoir réagi sur Europe 1 sur cette mise en examen du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.